Alors oui, aujourd'hui Sabine, on va parler fret. Donc marin d'eau douce, sortez vos pipes et vos plus bons jurons et voguons vers les hautes mers. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fret, donc du trafic maritime. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente près de 90% des marchandises fabriquées et extraites dans le monde. Et toutes ces marchandises partent par bateau. Donc le fret est un commerce aussi prolifique qu'invisible. Donc physiquement premièrement, parce que plus les bateaux sont devenus grands, maintenant la plupart des supertankers font la taille de 4 terrains de foot, plus les besoins ont été particuliers pour ces bateaux, donc plus en fait les ports ont été éloignés des villes. Donc on ne voit plus ces bateaux, on ne voit plus ces ports. Mais aussi c'est une économie très où il y a très peu d'informations en fait, il y a peu d'informations, on ne sait pas trop ce qui se passe. La plupart des marins parlent de la cécité des mers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un vieux proverbe qui dit il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont en mer, donc les marins, qui ne parlent pas trop, donc ils sont mi-morts, mi-vivants. Donc c'est un peu pareil pour l'industrie un peu du fret. Par exemple, si on prend le plus grand transporteur qui s'appelle Maersk, qui est danois, qui quand même a les mêmes revenus que Microsoft à l'année, on ne connaît pas presque rien du tout de lui en fait. Si on fait une recherche sur Google, il n'y a absolument rien sur lui. Et pourtant, c'est 90 000 personnes, 600 navires, plusieurs ports dans le monde. Donc ce trafic qui permet la circulation des marchandises à moindre coût, on sait peu de choses sur lui. Et pourtant, c'est ce trafic maritime qui permet, par exemple, que la moindre veste qui parcourt 40 000 km, ça coûte presque rien, ça coûte presque le prix d'un ticket de métro.
Et alors, pourquoi le transit maritime est-il si peu cher?
Ah, parce que le transit maritime est en quelque sorte le monde rêvé du MEDEF. Hein. Donc bah oui, ça coûte pas grand-chose, on paye presque pas d'impôts, et l'équipage, pas beaucoup non plus, donc du fait de la haute mer, en fait, du droit international de la mer. Donc l'ingrédient de base de cette somptueuse affaire, c'est bon, le conteneur, vous le savez tous, mais surtout en fait, ce qui est un peu moins connu, c'est le pavillon en fait. Donc en droit maritime, c'est ce qu'on appelle le pavillon de complaisance. Donc chaque navire, quand il est en haute mer, a un drapeau, et quand ce navire est en haute mer, ce bateau en fait va obéir selon les lois du pays auquel il porte le bateau, il porte le drapeau. Donc il y a tout un commerce en fait de drapeaux. Il y a un commerce de drapeaux et les armateurs vont pouvoir immatriculer. Par exemple, si je suis français et je suis armateur, j'ai un bateau, je vais pouvoir immatriculer mon bateau au Liberia, au Panama, même en Mongolie. Des pays qui n'ont pas de façade maritime vendent des drapeaux. Vous pouvez acheter en Mongolie, en Bolivie. Ce qui fait, c'est que ça peut vous faire gagner plus de 65% d'économie. Hein. Donc, parce qu'en fait, vous payez presque pas d'impôts. Et aussi parce que, en fait, votre personnel, du coup, vous allez avoir des devoirs envers votre personnel très différents et, du coup, un statut salarial très différent. Donc, ça donne des situations un peu cocasses, hein, où la modélisation qui crée des petits méli-mélos assez cocasses, dont je vais vous donner un petit exemple et je vais te proposer une petite devinette, Sabine. Alors, je suis un bateau responsable d'une marine noire, 300 km de côte. Je faisais le trajet de Dunkerque à Libourne. J'appartiens à M. Savarez, napolitain de son état, qui me louait via une société maltaise qui a des actions dans une société au Liberia, qui était propriétaire du navire. Mais j'ai le pavillon maltais. Je suis géré en Italie par Panship, qui m'a loué à une société suisse, qui me relouait à d'autres. La société suisse a passé un contrat avec une société en Inde. Mon équipage était donc indien. J'ai été loué pour le voyage à Total Transport, basé aux Bermudes, coquille vide, qui appartient à TPS, basé à Londres, qui est une filiale de Total ESA qui se trouve à La Défense. Je suis.
je sais pas, j'y connais personne.
Je suis Erika, le joli nom d'Erika, qui nous a fait une petite marée noire en 1999 en Bretagne. Donc ça, c'est un exemple un peu de ces inepties un peu qu'on peut trouver aujourd'hui, avec tout un système de sociétés d'écran en fait qui sont mis en fait pour échapper à la responsabilité, parce que le monde de la haute mer est totalement Il y a très peu de lois autour de ça. Donc par exemple, pour le législateur, pour l'affaire d'Erika, suite à la marée noire, ça a été un vrai... tu peux imaginer que c'était très difficile de retrouver un peu la responsabilité de à qui vraiment appartenait ce bateau, en fait. Hein, parce que c'était en Inde, est-ce que c'était au Liberia, est-ce que c'était en Malte. Donc voilà, c'était un peu le bazar.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de marées noires dont on n'entend jamais parler?
Alors oui, donc avec le cas de l'Erika, les marées noires en fait sont très médiatiques, mais on parle surtout des marées noires près des côtes, qui sont très minoritaires. La majorité des marées noires se trouvent en haute mer, et il n'y a aucun média pour les dénoncer. Mais ça, même ces marées noires, en total, représentent 2,5% de la pollution des mers. En fait, une des grosses pollutions, c'est le dégazage, ce qu'on appelle les marées blanches, qui est bien pire. Mais il faut, quand on parle de pollution avec le trafic maritime, il faut changer un peu de scope que des marées, en fait. Et on va mettre notre casque de chantier et on va aller dans le cœur du navire, son moteur. car en fait le grand sujet c'est la pollution sonore en fait. Donc il faut imaginer qu'un supertanker a un moteur de la taille d'une maison. Donc il y a une coque en acier. Donc ça veut dire que quand ce moteur de la taille d'une maison est en train de marcher, ça fait un peu effet tambour avec l'acier et ça fait des très basses fréquences. Et en fait ça fait un vacarme incroyable sur les routes maritimes. Et ça détruit totalement l'océan par le bruit, en fait. Hein. Par exemple, pour les baleines, ça détruit 90% de l'espace sonore des baleines. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être parlé dans les enceintes internationales par les ONG. C'est sur les papiers et ça devrait être dans 3-4 ans dans les grands textes internationaux. Il devrait y avoir des résolutions sur le bruit dans les océans. Mais surtout, en fait, le secteur maritime brûle le carburant le plus sale du monde. Et oui, ces gros moteurs de la taille d'un camion, un peu comme dans le film de Miyazaki, peut brûler n'importe quelle ressource. Il est omnivore tant que ça peut être brûlé. Donc, et ce qui brûle, en fait, c'est du fioul de dernier degré, en fait. C'est du fioul pas cher. C'est le dernier degré du fioul. Donc, c'est un déchet à la base. Donc, c'est le fioul qu'ils appellent ça à soufre. Et en fait, ça veut dire qu'il émet beaucoup de soufre. Donc il faut dire qu'un bateau en fait émet la même quantité quand il fait son trajet que 50 millions de voitures. Ça veut dire que si on prend même pas 10% des bateaux en fait qui sillonnent le golfe de ces supertankers, ils consomment à eux seuls, c'est 5%, autant que tout le parc automobile mondial. Donc et là on parle de 60 000 navires. Donc c'est la même question pour les avions, même si les supertankers polluent moins que les avions, mais on n'en parle pas du tout. C'est quelque chose de très secret. Donc drôle de bête, hein, ces porte-conteneurs, ces chevaliers servants de la mondialisation et de la consommation de masse, qui une fois en fin de vie vont s'échouer dans les cimetières marins, donc pas forcément à Sète, hein, comme celui de Brassens, mais plutôt sur les jolies plages indiennes et du Bangladesh où ils sont désossés pour resservir dans le cycle impitoyable de la vie capitaliste. Donc voilà, donc c'est cette petite chronique pour monter un peu les débats autour de cette économie qui est vraiment pas... dont on ne parle vraiment pas, on ne donne pas les tenants, les aboutissants.
Bah, évitons donc le transport maritime, optons pour le ferroviaire, si je comprends bien. Ah mais non, en fait, il y a des grèves sur le rail. Eh bien, je crois qu'on va rentrer à pied ou à vélo jusqu'à la rue d'Ulm, dans quelques mois, Nicolas.